Le jeune reporter européen vous parle.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur O2 Radio dans votre émission Les jeunes reporters européens. On va quand même prendre deux petites minutes pour faire un tour de table et présenter tout le monde. On va commencer par toi, Manon, qui t'es occupée du contenu. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ?
Bonjour Marie, bonjour à tous. Donc moi je vais vous parler du patrimoine mondial de l'UNESCO en Géorgie et en Auvergne.
Super, merci Manon. Passons à toi Yorgi, c'est à toi qu'est revenue l'importante mission de nous choisir notre musique pour cette émission. Alors, lesquelles as-tu choisi ? Dis-nous tout.
La première musique est Chakroulo, la seconde musique est Tsamokroulou.
On adore, merci Yorgi. Même si j'ai pas compris un mot en vrai. Je dois l'avouer. Quant à la revue de presse, c'est Marine qui va s'en occuper car notre Zoé, qui était censée s'en occuper, est restée coincée à rive gauche à cause des gilets jaunes. Donc, c'est toi qui es aux commandes finalement. Alors, quel est le thème de l'actualité de cette semaine ?
Bonjour Marie, bonjour à tous. Et du coup, cette semaine, pour ne pas changer, on va parler des gilets jaunes. Puisqu'il semblerait que ce soit la une internationale, nationale, mondiale, partout. Voilà, on ne fait que parler de ce samedi noir à Paris. Donc on va vous tenir informés encore aujourd'hui.
Merci Marine, il me tarde d'en entendre plus. Autour de Tessa et de son coup de cœur maintenant. Alors Tessa, que peux-tu nous dire sur ton coup de cœur de cette semaine, mais en gardant un peu de suspense ?
Eh bien moi je vous propose une pause dans ce monde si brutal et rempli de gilets jaunes. Je vais vous proposer un moment de magie et de retour en enfance.
Merci Tessa, je pense qu'on est tous pressés de t'écouter pour la suite. Et au final, je reviens vers toi encore une fois Tessa. Que nous réserves-tu pour cette minute de fin ?
Eh bien je ne voudrais pas trop en dire, mais une minute pleine de promesses et de Maria Carré.
Quant à moi, je me présente, c'est Marie, je suis votre animatrice pour aujourd'hui. Et en fin d'émission, je vous présenterai l'agenda du mois de décembre de la Maison de l'Europe. Bordeaux-Aquitaine. Maintenant, revenons à toi, Manon. Tu nous disais tout à l'heure que tu allais nous parler du patrimoine mondial de l'UNESCO. Je te laisse nous développer tout ça.
Donc, avant de commencer, je vais vous poser une question. Combien pensez-vous qu'il y a de sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO dans le monde ?
Je donne ma langue au chat, personnellement.
Marine, peut-être ?
Je sais pas. Pour quelqu'un qui a étudié la culture et le patrimoine, ça craint, mais je dirais une centaine.
Ouais, je dirais pareil, une centaine.
En fait, il y en a plus de 1000 inscrits.
Ah, wow.
Il y a 845 biens culturels, 209 biens naturels et 38 biens mixtes, c'est-à-dire naturels et culturels, et 54 okay. biens sur la liste du patrimoine mondial en péril. Ils sont placés sur cette liste car ce sont des sites à préserver et à rénover en priorité. Il existe également le patrimoine culturel immatériel qui a été créé pour protéger les pratiques, représentations et savoir-faire. Je vais vous donner un exemple, bien sûr, de ce patrimoine culturel immatériel. Deuxième question, est-ce que vous savez quel est le pays qui a le plus de sites inscrits ?
C'est nous ? C'est la France ?
Oui, moi aussi, je dirais la France.
Eh bien non, c'est l'Italie.
Ah, qui non, compte, ça c'est sûr. C'est l'Italie qui a le plus gros patrimoine. Ils passent leur temps à s'en vanter, donc...
On s'en vante aussi pas mal, hein, nous, en France.
Donc c'est l'Italie qui compte le plus de sites, 51 au total, wow. essentiellement culturels, comme le centre historique de Florence. Ensuite, il y a la Chine, l'Espagne et la France en quatrième position, avec 44 sites essentiellement culturel là aussi. Donc, puisque nous sommes aujourd'hui avec Yorgi de Géorgie, je vais vous parler de la Géorgie et donner quelques exemples de patrimoine inscrit. Donc, tout d'abord, un patrimoine culturel immatériel, la culture vivante des trois systèmes d'écriture de l'alphabet géorgien. En effet, il y a trois systèmes d'écriture en Géorgie. Ces écritures sont inscrites en 2016 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Les trois alphabets géorgiens. Je suis désolée pour la prononciation. Alors, il y a l'alphabet Nousrouli, Redrouli et Mglovani. Ils sont tous encore en usage aujourd'hui. Ils sont utilisés car ils ont différentes fonctions sociales et culturelles qui reflètent un aspect de la diversité et de l'identité géorgienne. Aujourd'hui, on utilise dans la vie de tous les jours l'alphabet Mgedrouli.
Super.
Et ça depuis le 10e siècle. Les deux autres alphabets sont principalement utilisés et enseignés de manière informelle pour la religion. Donc maintenant, Yorgi, je vais vous demander si c'est possible, te demander plutôt,
ouais.
si c'est possible ouais, ouais. De nous, de nous faire écouter cet alphabet géorgien.
D'accord. A, B, G, D, E, V, Z, T, I, G, L, M, N, O, P, J, R, S, T, U, P, K, H, H, Ch, Ch, Z, 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 Ch, H, J, H. Merci.
Merci à toi, Yorgi.
C'est un petit flow quand même.
Donc maintenant, je vais passer au patrimoine matériel, le bâti. Je vais vous parler d'un site qui se trouve dans la ville natale de Yorgi, qui s'appelle Koutaïssi. Donc, je vais vous parler de la cathédrale de Bagrati, qui est une cathédrale construite au XIe siècle pendant le règne du roi Bagra III, d'où son nom signifiant la cathédrale de Bagra. Donc, comme je l'ai dit, elle se situe à Koutaïssi, en Géorgie, dans la région d'Imeressi. Vous allez voir que c'est une situation assez spéciale pour ce site, car en 1692, elle est dévastée par des bombes des troupes ottomanes qui étaient en train d'envahir le royaume d'Imeressi, ce qui va causer l'effondrement de la coupole et du toit. Cette cathédrale a été ajoutée à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1994, ex aequo avec le monastère de Gelati, dont nous allons parler après. Cette cathédrale attire beaucoup de pèlerins et de touristes et est souvent utilisée comme un symbole de la vie de Koutaïssi. La cathédrale était en très mauvais état et l'UNESCO menaçait de l'exclure de la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO s'il n'y avait pas de reconstruction pour solidifier le site. Et c'est en juin 2012 que les travaux de reconstruction ont été lancés à l'initiative du président géorgien, alors désolé encore pour la prononciation, Mikhail Saakashvili. Mais la cathédrale est retirée du classement au patrimoine mondial en juillet 2017. Et oui, cela peut arriver. En fait, la cathédrale a été refaite en béton. Du coup, sa reconstruction était considérée préjudiciable à son authenticité.
Alors, merci Manon. Il est temps de faire une petite pause musicale en écoutant une des fameuses chansons que Yorgi nous a choisies. Pour rappel, il s'agit de Chakrulo. Ça va, j'ai bien prononcé. Un chant polyphonique géorgien reconnu par l'UNESCO comme patrimoine immatériel en 2001 et envoyé avant cela dans l'espace en 1977. On se retrouve juste après sur O2 Radio 91.3 pour la suite et la fin de la rubrique de Manon dans votre émission Les Jeunes Reporters Européens.
De retour sur Eau de Radio 91.3 dans votre émission Les Jeunes Reporters Européens. Manon, je te laisse terminer ta partie avant de passer à la revue de presse de Marine.
Donc pour terminer sur le patrimoine mondial de l'UNESCO, je vais vous parler de ma petite région, l'Auvergne. Enfin, maintenant on dit Auvergne-Rhône-Alpes, pardon. Donc ce site se situe dans le Puy-de-Dôme, près de Clermont-Ferrand, et c'est la chaîne des Puys et la faille de Limagne. Le bien comprend la longue faille de Limagne, l'alignement des volcans de la chaîne des Puys et le relief inversé de la montagne de la Serre. Cette chaîne a été créée dans le sillage de la formation des Alpes il y a 35 millions d'années. Associée à la chaîne des Puys, la faille de Limagne a été inscrite cette année le 2 juillet 2018 sur la liste des sites naturels du patrimoine mondial de l'UNESCO en tant que haut lieu tectonique. Et je suis vraiment très fière de vous présenter ce site car c'est chez moi et chez Marine aussi bien sûr. Surtout que pour en arriver à cette inscription, il a fallu beaucoup de temps et de travail, car l'inscription a été lancée en janvier 2007 par le conseil départemental. Et c'est seulement en janvier 2013 que le dossier a été soumis à l'UNESCO. Et en plus de ça, après plusieurs évaluations, l'UNESCO invite la France à faire de nouveau un approfondissement du dossier. Et c'est en janvier 2018 que les compléments de dossier sont soumis officiellement par la France à l'UNESCO. Et enfin, en juillet 2018, l'aboutissement, la concrétisation de 11 ans de travail, la chaîne des Puys et la faille de Limagne sont inscrits sur la liste des sites naturels du patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, ce sera tout pour moi. J'espère que vous en avez un peu plus appris sur la Géorgie et bien sûr sur le Puy-de-Dôme qui, je rappelle, se situe plein centre de la France, pour ceux qui ne sont pas très bons en géographie.
Bah, et rappelons aussi, pour ceux qui disent qu'il n'y a jamais rien à voir en Auvergne, que c'est non seulement donc, un site naturel à l'UNESCO, c'est le premier en France. C'est le premier site naturel de France à être classé à l'UNESCO. Voilà, pour ceux qui se disent qu'il ne se passe jamais rien chez nous, le premier site, c'est en Auvergne, les gars.
On allez-y. On voit les chauvins, hein, dis donc. Mais effectivement, c'est vrai que c'est très récent, dis donc. Je ne savais pas. Donc, merci beaucoup, Manon, pour toutes ces informations.
Alors, au tour de Marine de nous présenter sa rubrique, je tiens à préciser que Marine nous a remplacé Zoé au pied levé. Alors, s'il vous plaît, ne soyez pas trop méchant envers elle. Je te laisse la parole.
Non, ça va. Avec Zoé, on est des habitués de la revue de presse. Alors, ça va être une revue de presse un peu spéciale, puisqu'aujourd'hui, Zoé a tenu à nous faire une anti-revue de presse. Voilà. Il y a plein de sujets qu'elle aurait aimé aborder, comme la hausse des frais de scolarité pour les étudiants étrangers en France, le retour historique de l'extrême droite au Parlement andalou en Espagne, les résultats de l'élection présidentielle de Géorgie, l'approbation de l'accord du Brexit par les 27 autres États européens hier, ou la publication des implants files la semaine dernière. Donc une anti-revue de presse. Revue de presse, pardon, parce que franchement, on n'entend plus parler que des gilets jaunes.
Effectivement.
Ce week-end, Zoé a voulu rentrer dans sa petite campagne tourangelle natale et le sujet de conversation principale au Café du Coin n'était pas la pluie, le temps humide, etc., mais plutôt les gilets jaunes et les techniques de chacun pour échapper au barrage et ne pas être trop en retard au travail. Alors revenons à nos moutons et parlons canard. Merci Zoé pour cette expression que je ne connaissais pas avant que tu m'envoies ta revue de presse. Vraiment, elle m'a fait beaucoup rire. Donc elle a trouvé quelques articles espagnols, italiens, allemands, néerlandais qui parlent du G20, des rebondissements du Brexit, de la montée du parti Vox en Espagne ou encore de la présidente géorgienne. Mais ce qu'on retrouve le plus dans les médias en termes de politique étrangère, ce sont bien sûr nos chers gilets jaunes. Le Spiegel, donc, qui est un quotidien allemand, consacre un long article à ce sujet, expliquant au mieux les tenants et aboutissants de cette protestation. Donc ça paraît vraiment, c'est vraiment un sujet qui leur est étranger aux Allemands. Ils expliquent qu'initialement la protestation des gilets jaunes était dirigée contre les taxes sur l'essence, qui, comme vous le savez, donc augmenteront à partir du 1er janvier 2019. Mais depuis, les revendications partent un petit peu dans tous les sens. Le mouvement veut réduire toutes les taxes, augmenter les pensions et les salaires minimums, obtenir davantage de ressources pour la police. Ils exigent aussi davantage d'écoles, d'hôpitaux, de meilleures routes, une renationalisation des entreprises énergétiques, une meilleure intégration des migrants. Bref, on a complètement évolué par rapport à la demande de base. On veut aussi on proteste aussi contre la baisse du pouvoir d'achat, les difficultés sociales croissantes. En fait, les gilets jaunes, c'est plus
un peu tout et n'importe quoi.
Voilà, c'est, on va dire que la protestation de base, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase par rapport à tous les problèmes que connaît la France en ce moment. On se tourne de plus en plus directement contre notre président Emmanuel Macron. L'article conclut sur les possibilités d'un retour à l'état d'urgence.
On en est quand même arrivé à ce point, pour lequel la majorité semble divisée. Ce dont on n'entend pas parler en France, mais que nous explique Voice of Europe, c'est que le mouvement semble aussi s'européaniser. On a vu des gilets jaunes se rassembler à Bruxelles, dans les Flandres, mais aussi aux Pays-Bas. Un premier mouvement est né à Nijmegen. Je suppose que ça se prononce comme ça, je ne suis pas une spécialiste. Donc il a rassemblé 23 personnes, mais c'est un début, le début d'un mouvement qui s'étend aussi à La Haye, où la protestation rassemble entre 1000 et 5000 personnes. C'est bien là que l'Observateur tape dans le mille en titrant « COP24, pourquoi tout le monde a l'air de s'en foutre ?» Oui, parce que cet article, on nous explique que ni Emmanuel Macron ni Édouard Philippe ne se déplaceront en Pologne pour la COP24, puisque ce dernier a annoncé le 1er décembre au soir qu'il annulait sa visite pour cause de gilets jaunes. Alors que justement, la COP24 devrait vraiment être une des premières préoccupations de notre président, étant donné que les accords de Paris ont été signés donc chez nous, dans notre capitale, il y a moins de 3 ans. D'après La Repubblica, qui est un quotidien italien, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fait un très long discours d'entrée pour l'ouverture de la COP24, dans lequel il a dit qu'on n'a plus le temps de mettre en place les dispositifs prévus par les accords de Paris, que la réduction carbone doit se faire immédiatement. On a de plus en plus de rapports inquiétants de la part de spécialistes sur le réchauffement climatique. Donc on a la température globale a pris 1 degré et d'ici 2100, on prévoit une augmentation de 3 degrés, ce qui inclurait des zones de sécheresse beaucoup plus étendues et la disparition de nombreuses espèces. Vraiment, cette COP24, elle a un objectif très important pour négocier la réduction de l'émission carbone. Et c'est une tâche qui va s'avérer difficile pour des pays comme par exemple la Pologne ou la Slovaquie, dont l'économie dépend de l'exploitation du charbon. Donc ce sont deux pays qui espèrent parvenir à une transition énergétique en douceur, mais ça s'annonce compliqué par rapport aux attentes des autres pays. La COP24 donc, avait vraiment des discours très portés sur le changement, mais d'après certains activistes américains, il semblerait qu'ils aient fait un gros faux pas au moment de l'organisation de la conférence, puisque il semblerait que plus de 4000 tonnes de gaz à effet de serre ont été émis pour le catering de la COP24.
Ben, bravo.
Voilà, pourquoi ? Parce que les repas sont composés essentiellement de plats. À base de viande. Et donc on rappelle qu'un plat à base de viande produit 4 fois plus de gaz à effet de serre qu'un plat végétarien. Donc ces associations tiennent aussi à mettre l'accent sur le fait que ne pas manger de viande, c'est pas seulement un choix personnel, c'est aussi une mesure qui doit être sérieusement envisagée pour réduire l'émission des gaz à effet de serre et pour sauvegarder la planète. Donc aussi, voilà, pour retourner un peu sur le sujet, sur d'autres journaux, on a l'Observateur qui conclut que le mot d'ordre de la COP fixé par Varsovie est la transition juste. Ce à quoi aimeraient parvenir la Pologne et la Slovaquie. Si on s'intéressait justement à la transition, c'est une question un petit peu compliquée. Si on repart sur le sujet des gilets jaunes, qui semble incompris par les partis politiques, les syndicats, les médias, qui essaient justement de se battre contre l'injustice qu'il y a dans le pays. En cherchant parmi les médias européens, on a aussi trouvé un long article d'El País qui titrait « Une centaine de lycéens suivent la vague de contestation des gilets jaunes en France ». Ça semble tourner un petit peu au mai 68, cette histoire. Il explique qu'une centaine de lycéens sont donc bloqués dans le pays, une centaine de lycées, pardon, sont donc bloqués dans le pays pour appuyer le mouvement en cours. Pourtant, il me semble que les lycéens et étudiants ont d'autres sujets de contestation, comme la réforme du bac. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais ça promet d'être un sacré bordel. La réforme de l'accès à l'université, qui a été mise en place l'année dernière et dont on voit les conséquences vraiment cette année, mais aussi la hausse des frais d'inscription à l'université pour les étudiants étrangers. Et pourtant, tout est désormais rattaché, mêlé, à raison ou à tort, au mouvement des Gilets jaunes. Comme si toutes les contestations avaient une seule et même bannière, Macron démission. Voilà, c'est vraiment le mot d'ordre en France en ce moment, et c'est sur cela que je vais conclure cette revue de presse, cette anti-revue de presse de Zoé.
Eh bien, merci Marine. Dis donc, les nouvelles de cette semaine sont très joyeuses.
Ah, vous avez vu ça. Vous inquiétez pas, pour la semaine prochaine, je vous prépare un truc beaucoup plus léger, beaucoup plus dans l'esprit des fêtes.
Juste avant Noël. Et du coup, maintenant, sur une note plus joyeuse, hein, pour le coup, Tessa, ce fameux coup de cœur, on veut tout savoir maintenant.
Oui, tout à fait. Sortons un peu de la crise et de la France, ça nous fera tous du bien. Je vais vous parler de Disney.
Ah.
Alors après Alice au Pays des Merveilles, La Belle au Bois Dormant, Cendrillon, Livre de la Jungle, Peter et le Dragon ou encore La Belle et la Bête, Disney n'a pas fini de nous faire rêver, rire et même pleurer avec des réadaptations ou des suites de films Disney mythiques. Et notamment une suite de Winnie l'Ourson avec le sublime Ewan McGregor, que vous avez peut-être déjà eu la chance de voir. Mais aussi des suites de Dumbo, du Roi Lion ou de Pinocchio, donc sortez les mouchoirs. Ça va y aller dans le cinéma, mettez du waterproof mesdames. Vous pourrez ensuite vous envoler avec Mary Poppins qui sort le 19 décembre, ou encore Aladdin.
Ah. Oui, je sais. Encore, voilà. Encore un Aladdin. Dis donc, ça fait beaucoup.
Mais cette fois, promis sans Kev Adams. Nous pourrons ensuite apprendre de nouveaux sortilèges avec un film sur Merlin l'Enchanteur, remanié par Brian Cogman, qui est scénariste pour Game of Thrones. Mm-hmm. Ça sera peut-être sanglant, on verra. Et un remake aussi de Fantasia. Ensuite, un film revalorisant Les Princes Charmants sera aussi en préparation, tout comme un film sur la sœur méconnue de Blanche-Neige, la non moins non célèbre Rose Rouge. Ah. Très prometteur. Mais personnellement, mon attente ultime, c'est le film sur l'héroïne la plus badass de Disney, j'ai nommé Mulan, que j'ai vraiment, vraiment hâte de voir en film.
Oui, je crois qu'on va tous se mettre au sport de combat après avoir vu ce film. Eh bien, super, merci beaucoup Tessa. Je vous propose une seconde pause musicale avec le second titre que Yorgi nous a choisi, Samokouli. Désolée pour la prononciation, une chanson polyphonique typiquement géorgienne. On se retrouve juste après sur O2 Radio. 91.3 pardon, pour l'agenda de ce mois de décembre.
Oh.
voilà sur Eau de Radio, la radio des Hautes-Garonnes, pour la fin de cette émission Les Jeunes Reporters Européens. Passons à l'agenda, et comme je vous le disais plus tôt dans l'émission, je vais vous donner quelques dates importantes du mois de décembre, auxquelles vous êtes conviés avec le plus grand plaisir et qui se dérouleront à la Maison de l'Europe, Bordeaux-Aquitaine, 1 place Jean Jaurès, à Bordeaux. Tout d'abord, cette semaine, je vous propose de venir apprendre ou améliorer une langue comme l'espagnol, l'allemand, l'italien, mais aussi le géorgien, le grec, le finnois ou encore le serbe, à un afterwork linguistique le jeudi 6 décembre à partir de 18h30 à la Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine. Donc ce jeudi-là, notez-le bien. Ensuite, venez découvrir ou redécouvrir la Roumanie dans une soirée exclusivement consacrée à ce pays, animée par notre merveilleuse service volontaire européenne, Johanna. Le mardi 11 décembre, à partir de 19h, à la Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine, toujours en place Jean Jaurès à Bordeaux, je vous mets au défi de remplir la salle.